Possède la radio et la télévision.
On ne peut pas savoir où on est ni où on va si on ne sait pas d'où on vient. Pas besoin d'être un grand savant pour s'intéresser à l'histoire, la géopolitique ou l'économie. Surtout quand c'est expliqué par une bande de profs d'histoire géo qui n'ont pas la langue dans leur poche. Des exposés parfois assez différents de ce qu'on nous dit à l'école et dans les médias dominants. L'histoire, la géopolitique et l'économie s'intéressent à vous. Intéressez-vous à elles les samedis à 12h sur Radio G. Avec Polémix et la voix off.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
En se rapprochant de la nature, on se rend compte que l'objet de notre propre étude n'est pas la nature en soi, mais la vie et notre propre nature. Moi, je défends pas la nature parce que je suis quelqu'un d'altruiste. Je défends la nature parce que j'ai compris à quel point je fais corps. Toi, ce slogan, nous sommes la nature qui se défend, mais évidemment qu'il faut comprendre à quel point on est cet écosystème-là. Quand tu bouleverses ces cycles-là, c'est des bouleversements qui nous touchent dans nos corps. Bah, c'est un peu dommage, ça fonctionne tellement bien. La logique de la propriété privée ne fonctionne pas avec l'écosystème rivière et fonctionne pas avec l'écosystème tout court. Alors ouais, je vais faire mon punk, hein, la propriété c'est du viol, peut-être. Le territoire, par contre, a du sens. La notion de propriété, elle interroge d'autres choses. Enfin, cette nature-là, c'est une bible à ciel ouvert, en fait. Elle a tellement à nous apprendre. Prenons le temps d'essayer de comprendre ce fonctionnement-là. Inspirons-nous de ça. Et oui, l'eau, elle a plein de fonctions. Elle ne sert pas que à alimenter les sapiens en eau.
L'eau, le biotope, la nature, les autres animaux ne sont pas au service de l'humain. Oh oui, je sais bien, on nous a mis dans le crâne que l'homme, pas la femme, hein, l'homme serait au sommet d'une pyramide et que le reste de la création serait à son service. Sapiens sapiens d'aujourd'hui ne semble pas savoir qu'il n'est qu'un élément du biotope parmi d'autres et que sans le vivant non humain, comme la rivière, l'être humain est voué à disparaître. Salut les amis, c'est JBD, c'est la voix off pour ce nouvel épisode de notre série SOS H2O, au secours. Saga dans le déclenchement s'est fait avec la découverte du mortifère scandale agro-industriel des méga-bassines. On le rappelle rapidement, hein, les méga-bassines ou bassins de stockage d'eau, massivement pompés dans des nappes phréatiques par des agro-industriels pour irriguer des cultures industrielles discutables, comme par exemple du maïs destiné à nourrir des bestiaux. Or, nos nappes phréatiques sont déficitaires dès le printemps, ce qui n'empêche pas des industriels de pomper dedans pour stocker de l'eau dans des bassins de rétention, comme ils disent, et ce bien commun et surtout vital qu'est l'eau est privatisé, accaparé pour être dilapidé. Cette série radio au secours, on la doit aussi à ce traumatisant été caniculaire de 2022 et à sa pénurie d'eau douce. Et pour ce nouveau chapitre de cette série aquatique, on est à nouveau avec Clément de l'école de Loire, la Rabouilleuse, à Rochecorbon, sur la Loire donc, en région centre. Et on va aujourd'hui parler d'agriculture et d'agro-industrie. Outre ses compétences de marin et d'animateur nature, Clément a aussi une formation et un regard sur le monde agricole et ses pratiques. Et au dernier épisode, Clément nous expliquait que la pénurie d'eau douce de ces derniers étés n'était pas tant due au réchauffement climatique, mais surtout à la destruction du cycle de l'eau engendré par 50 années de remodelage des territoires, au bénéfice, à très court terme, d'une agro-industrie calamiteuse. En canalisant les cours d'eau, en bétonnant les rives et les sols, en drainant et en asséchant des zones humides, on a accéléré le cycle de l'eau, qui a notamment de plus en plus de mal à recharger les nappes. Alors oui, ça fait un moment que le réchauffement climatique fait fondre les glaciers, mais le manque d'eau, par exemple de l'été 2022 et des étés à venir, c'est d'abord à la destruction du cycle de l'eau qu'on le doit. Cycle de l'eau qu'on peut analyser, et on va y revenir aujourd'hui, en quatre dimensions. Longitudinale, transversale, verticale et temporelle. Enfin bon, ça c'est si j'ai bien compris ce que t'as expliqué la dernière fois au cours de notre discussion. Fleuve qu'on poursuit aujourd'hui en ce jour d'hiver et de gelée. Salut Clément.
Salut.
Au moment où on enregistre cette émission, où on se retrouve au Pelliot, donc à Rochecorbon, en amont de la ville de Tours, sur la Loire, je viens souvent ici quand c'est l'été, quand il fait beau, et finalement peu l'hiver. Et j'étais juste ébloui par la qualité du paysage, par ces petits bancs de brume, cette lumière très pastel, que j'ai pas souvent l'occasion de voir en fait. Pour reprendre ce qu'on se disait la dernière fois, j'ai dit putain, c'est vrai que c'est bien foutu la nature quand même, c'est beau.
Ouais, ouais, c'est beau, puis ça change quoi. Chaque saison a son lot de petites merveilles et de petites surprises. Bon, là, il y a eu un bon coup de roundup, tu vois, ce matin. Là. Un roundup naturel, provocateur. Ouais, provocateur. Un bon coup de gelée, quoi. Donc, ouais, tout est en train de... ça va faire un peu le ménage, quoi. Hein, mais c'est comme ça, c'est normal. Ça fait du bien aussi, une petite gelée.
T'es chié quand même. Hein. J'arrive tout poétique, tout feng shui. Putain, c'est beau. Parce que je sais qu'on va se dire des trucs pas drôles au sujet de l'eau, de son cycle, de sa pollution. Et non, en fait, tout de suite, faut que tu dises un gros mot, quoi. J'arrive en faisant de la poésie. Toi, tu me réponds roundup.
Non, non, mais c'est vrai que parce que moi, je suis arrivé. J'ai vu que j'avais oublié de récolter la sauge ananas, tu vois, et j'ai vu qu'elle était toute flétrie là, et là la gelée elle est un peu, voilà, mais c'est pas grave en fait, c'est comme ça, c'est normal, mais c'est étonnant ouais, de voir toutes ces feuilles qui sont encore toutes vertes, et puis là je vais te dire, quand ça va dégeler, ça va devenir marron, c'est sûr quoi, c'est le petit ménage du matin là, c'est les premières grosses gelées, mais c'est vrai qu'il y a une lumière qui est incroyable ouais, on peut aller voir les bateaux si tu veux là, ils
oui,
sont tout blancs.
Oui. Mais tu sais, je me fais souvent la réflexion quand je vais dans des musées, que je vois des peintres qui ont représenté des paysages, trucs comme ça. Je pense notamment à ce peintre anglais, Turner, spécialiste de marine, et qui venait peindre ici pour les légendaires lumières ligériennes. Hein, c'est pas qu'on veuille faire dans le cocorico, mais quand même, c'est vrai que c'est beau par ici, la Loire.
Bah, ce qui est incroyable avec l'eau, de toute façon, en général, c'est que c'est un reflet du ciel. Donc voilà, pour peu que tu aies un ciel un peu lumineux, bah pouf, ça se reflète, tu l'as deux fois.
Donc là, on s'éloigne du Brasero et de la base de la Rabouilleuse. Le Pelliot, c'est tout l'ensemble du site, là? C'est-à-dire là où il y a les hangars de la Rabouilleuse et tout ça, et aussi l'embarcadère vers lequel on se dirige?
Alors, le Pelliot, c'est plutôt le terrain qui est là, qui jouxte, on va dire, notre atelier.
Et qui sert à faire des fêtes, souvent.
Ouais, oui, c'est ça. C'était une prairie, donc c'est plutôt cet espace-là qu'on appelle le Pelliot, qui est un espace, du coup... de liberté quoi, hein. Enfin, aussi on a voulu avoir une zone de gratuité comme ça, ou parce que la nature c'est aussi la gratuité. Donc bah moi je passe ma vie à faire payer les gens pour les emmener sur la Loire, mais je leur vends pas la Loire, moi je leur vends un accompagnement, je leur vends l'entretien des bateaux, je leur vends tout ça, mais la nature c'est un espace qui doit être gratuit. Voilà, c'est un peu ça qu'on avait envie symboliquement, d'avoir un espace comme ça qui est accessible à tous. Alors il y a le petit aménagement, la tente, ce qui fait qu'on peut demander une contribution pour des gens qui veulent vraiment avoir l'usage des aménagements, on va dire, mais l'espace, il est libre. Donc tu vois, c'est tout blanc.
Donc on est devant la Loire, il y a le soleil très diffus, pastel, et puis cet automne là, qui avait finalement 3 semaines de retard, si j'ose dire. On avait en novembre des paysages d'octobre, et là ça y est, là, le coup de froid fait tomber les feuilles et tout, l'hiver, blam. Et c'est tellement beau.
Ouais, ouais, c'est clair. Là, ça s'est bien installé. Tu vois, nous, on a remonté les bateaux, du coup, on les a installés là parce que bah, l'eau est remontée un peu et c'est un port mobile, tu vois, parce que sur la Loire, tout est un peu en mouvement tout le temps. Donc, on n'est pas sur des installations fixes, surtout pas sur l'eau. Donc voilà, on l'a remonté là, ils sont un peu plus à l'abri des encombres. Quand l'eau va monter, forcément, tous les troncs qui ont été coupés par les castors, tout ce qui est comme ça juste au bord, sur la rive, quand l'eau va monter, elle va décrocher les branches, et donc il va y avoir tout un tas d'encombres qui vont descendre le fleuve. Et là, bah, voilà, c'est plutôt pas mal d'avoir prévu le coup et d'avoir un peu protégé les bateaux dans une zone où, voilà, où ça passe moins. Ça, c'est un repère de marinier, tu vois. Quand tu vois des branches dans l'eau, tu sais que l'eau est en train de monter. Quand tu vois un tronc ou deux, ah, tu te dis, tiens, l'eau monte. Ça décroche.
Bon bah voilà, nous voilà assis de retour à l'atelier autour du bras zéro. Je voudrais que tu reviennes sur quelque chose que tu as évoqué la dernière fois. On parlait du cycle de l'eau et de cette façon très anthropocentrée, certes, de considérer la chose avec quatre dimensions que tu as évoquées. Quatre adjectifs, longitudinal, transversal, vertical et temporel. On a pas mal insisté sur longitudinal, cette histoire que grâce à l'eau, la montagne nourrit l'océan. Voilà, que le cycle, il est aussi là. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur ces quatre points ?
Oui, oui, effectivement. Alors, même si tout est toujours en lien, c'est ça qui est compliqué. Mais sur les dimensions longitudinales, on a donc parlé beaucoup du transport des sédiments. Il y a une chose qui est quand même vachement importante aussi, c'est donc ce qu'on appelle ce corridor, c'est-à-dire ce couloir qui va permettre aux poissons migrateurs de circuler. Donc, les poissons migrateurs, ça va être le saumon, le plus emblématique, mais ça va être aussi l'alose, ça va être l'anguille, ça va être la lamproie, ça va être les mulets. Voilà, alors ces poissons sont quand même très importants dans nos rivières. Pour un pêcheur, c'est vraiment la ressource. Parlons de... N'ayons pas peur de ce mot, je pense qu'il ne faut pas que ce soit seulement ça. Mais c'est effectivement une ressource de poissons qui est absolument considérable. On a un peu perdu de vue, malheureusement, on a des rivières qui sont tronçonnées un peu, qui sont découpées à cause d'aménagements, à cause des ponts en l'occurrence, à cause des barrages, ce qui fait que c'est difficile pour les migrateurs de circuler. Peut-être il va falloir réfléchir notre modèle agricole un peu différemment. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça pose question d'être complètement dépendant de l'Ukraine pour nos céréales. Voilà, aujourd'hui, on se dit peut-être qu'il faudrait qu'on arrive à aller vers un peu plus d'autonomie alimentaire. Et je pense qu'on aura du mal à faire l'autonomie alimentaire du pays si on ne compte pas sur les poissons. C'est-à-dire qu'historiquement, c'était vraiment une des clés de notre alimentation. Pourquoi ? Parce que ce qui est important, c'est de se nourrir toute l'année. Et la difficulté sur nos territoires, c'est qu'on a des saisons, et donc on a des périodes de disette. On a des périodes où on a la dalle, en fait, où il n'y a plus rien à bouffer sur le territoire, notamment la fin de l'hiver. Alors on fait du grain, hein, parce qu'on peut stocker, parce qu'on va pouvoir, du coup, comme ça, passer l'hiver. Sauf qu'arrivé Noël, voilà, on fait un peu la fête, tout ça, et puis ben, au mois de février-mars, il n'y a plus rien à bouffer sur le territoire. Les primeurs ne sont pas encore arrivés, et à ce moment-là, ben, d'ailleurs, les curés nous disent, puisque c'est ça, ben, on n'a qu'à arrêter de manger, hein. Comme de par hasard, on fait le carême au mois de février. C'est pas toi, février-mars. C'est pas un hasard en réalité, hein. C'est que nos religions, elles s'adaptent au climat et aux conditions. Et donc, c'est un moment où là, les migrateurs vont être extrêmement précieux. Pourquoi ? Parce que comme c'est la fin de l'hiver, qu'il a plu tout l'hiver, la terre s'est gorgée d'eau, l'eau se met à monter. Et donc, les saumons, les aloses vont arriver comme ça par milliers dans la rivière, et on va se rabattre sur cette ressource alimentaire absolument précieuse à ce moment-là.
On se rabattait, parce que bon, aujourd'hui, il n'y a plus que du silure. Ouais, ouais. En Loire, toutes les variétés, on n'a jamais oublié leur nom, de tout ce qu'on pouvait trouver dans la Loire.
Oui, oui, mais effectivement, aujourd'hui c'est... on ne pourrait plus se nourrir, mais on voit l'importance, en tout cas, que représente le fait de garder cette connexion avec l'océan pour que l'océan puisse remonter aussi dans la rivière. C'est-à-dire qu'à la fois... c'est la montagne qui va vers la mer, mais c'est aussi la mer qui remonte vers la montagne, notamment à travers ces poissons. C'est la première mondialisation alimentaire, si tu veux, et c'est gratos. Et moi, j'imagine toujours les mecs, tu vois, au néolithique, là, où tu vois les premiers hommes, là, dans des petits ruisseaux de montagne, quand ils voyaient débouler un saumon, il devait halluciner. Tu vois, la cousine, parce que c'est un petit truite au départ, le saumon, hein, qui s'est fait embarquer dans le courant et qui a trouvé l'océan. Mais la cousine truite Fario, qui a 5 ans, elle fait, allez, 25-30 cm. Et là, tout d'un coup, t'as le cousin, tu vois, qui fait 1m10, qui débarque.
Ben, j'ai trouvé l'Amérique.
Et le truc, il arrive, il est énorme. Bon, bref, c'est une sorte de miracle de la nature. Donc, peut-être que le travail de continuité ne se fera pas pour le saumon. Peut-être que ça servira à d'autres espèces. Mais voilà. Donc, cette notion longitudinale.
Longitudinale. Voilà. Donc, effectivement, ça va de la montagne vers l'océan. Et là... un exemple de l'océan qui remonte vers la montagne.
Voilà, parce que celui-là, j'en ai pas parlé et c'est quand même super important. Il y aurait plein d'autres anecdotes à raconter.
C'est longitudinal dans les deux sens.
Voilà. Bon, une autre dimension, dimension transversale. J'en ai un peu parlé avec une notion de propriété privée notamment et j'ai dérapé là-dessus. C'est-à-dire qu'une rivière, c'est pas seulement un couloir d'eau. C'est un couloir d'eau, deux couloirs de vie.
Et c'est une île 4.
Et voilà. Et le problème, c'est que si tu veux, bien souvent, on n'avait pas compris ça. Quand tu fais un mur de chaque côté de la rivière, c'est pas de chaque côté de la rivière que tu fais le mur, c'est sur le vivant de la rivière. C'est-à-dire quand tu as une coupe transversale de la rivière et que tu as du béton, de l'eau, du béton, tu peux appeler ça une rivière si ça te fait plaisir, mais c'est un canal d'évacuation. Ce n'est rien d'autre. S'il y a quelques poissons qui sont vivants au cœur de Paris, là, tu vois, dans la Seine, c'est parce que, bon, les rivières sont des écosystèmes en mouvement, et donc, quelque part en amont de Paris, la Seine est vivante. Et donc, il y a des bribes de vie qui coulent jusqu'à Paris, et donc, ils arrivent à survivre comme ça. Mais je veux dire, ça ne peut pas faire un milieu vivant, du béton, de l'eau, du béton. D'accord ? Je veux dire, très souvent, regardez une bouche d'égout. Pensez que c'était une rivière. Toi, le mulet, par exemple. Nous, on a du mulet dans la Loire et on aime bien ce poisson-là puisque c'est un poisson qui nous rappelle un peu l'océan, qui a une chair un peu océanique. En Bretagne, le mulet, tu vois, tu dis le mulet, oh, non, c'est le mulet de porc, c'est dégueulasse. Bah oui, mais attends, juste comprends un truc. Effectivement, les mulets, tu les vois dans le porc et tu les vois devant la bouche d'égout. Et ils sont tous comme ça, là, devant la bouche d'égout, devant la grille. Juste, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un porc, au départ, c'était une sortie de rivière et qu'au fond d'un porc, systématiquement, il y a une rivière. Sauf que cette rivière, c'est devenu une bouche d'égout. Et que les mulets, s'ils sont là devant la bouche d'égout, c'est parce qu'eux, ils essayent de remonter dans la rivière. Donc, c'est nous qu'en avons fait une bouche d'égout, mais au début, c'était une rivière. Voilà, entre une rivière et une bouche d'égout, il y a un monde, mais voilà. Est-ce que vraiment, on a envie de transformer nos rivières en bouche d'égout, quoi ? C'est une question, vraiment. En tout cas, une rivière naturelle, une rivière normale, et c'est vraiment la particularité de ce fleuve Loire, il a des berges naturelles que la rivière va pouvoir façonner. Parfois, elle va creuser, parfois, elle va déposer. On en a déjà parlé la dernière fois. C'est très important, puisqu'effectivement, c'est là que la vie va apparaître. Dimension transversale.
Petit insert, c'est que notre copain le rouge-gorge, là, qui était déjà là la dernière fois, parce qu'on est sur son territoire, apparemment, est venu sautiller entre nos jambes, là. Il a compris que les sapiens du coin sont pas dangereux pour lui. Mais il est à nos pieds, là.
Ouais.
Écoute, j'ai jamais vu un rouge-gorge d'aussi près, j'ai l'impression. Il est pas farouche, hein.
Non, c'est clair. Bon, on est un peu chez lui, donc.
Il est, j'allais dire, effronté. Enfin, en tout cas, il a pas peur de nous. Hein.
C'est clair, c'est clair.
Donc, longitudinale, transversale, verticale.
Verticale. Les niveaux d'eau, ils changent. Ça monte et ça descend. Et c'est très vrai sur la Loire. Globalement, sur toutes les rivières, si tu veux, ce qui fait monter l'eau, hein, c'est pas la lune, hein, c'est pas des marées, c'est la pluie, puis il pleut, puis on monte, et quand il fait beau, l'eau descend. Dans nos climats, on a des saisonnalités, et donc on a des variations de niveau d'eau. Ça va pas être forcément le cas de l'Amazone, ou tu vois, de certaines rivières, mais nous, on a donc des rivières à marnage. L'écosystème et les animaux se sont adaptés à ça. Alors, il y a un bon exemple, c'est le brochet. Le brochet, c'est un poisson qui pond dans l'herbe. Alors, évidemment, il prend pas ses bottes, ses clics et ses claques hein, pour aller dans l'herbe. Il va attendre la crue. Et il va, au moment où l'eau monte, choisir d'aller dans des prés ou dans des boires, les plantes qui sont juste à la rive, et il va aller coller ses œufs sur ces herbes. Et les œufs vont avoir besoin d'un certain temps, au moins 15 jours, pour pouvoir éclore et redescendre dans la rivière. Donc l'idéal, c'est d'avoir une crue d'au moins 15 jours avec un petit rayon de soleil à la fin. Alors ça paraît hyper exigeant, tu te dis, mais attends, l'autre, il faut... Bah, oui, mais bon, depuis des milliers d'années, tous les hivers, il pleut, et tous les hivers, l'eau monte. Et au moment de la décrue, si l'eau se met à descendre, c'est parce qu'il arrête de pleuvoir. Et s'il arrête de pleuvoir, donc il y a un petit rayon de soleil. Tu vois, ce petit rayon de soleil, il va réchauffer l'eau et il va permettre... les poissons, souvent, les œufs, en fait, éclosent avec un nombre de degrés cumulés. C'est-à-dire que la truite, par exemple, il lui faut 800 degrés cumulés. Alors, il y a une journée, l'eau, elle est à 12. Le lendemain, l'eau, elle est à 11. Le lendemain, l'eau, elle est à 13. Alors, tu fais 11 plus 12 plus 13. Et donc, quand tu arrives à 800 degrés, ben, l'œuf éclos. Pour le brochet, je ne sais plus combien c'est de degrés cumulés, mais ce petit rayon de soleil à la fin va permettre l'éclosion. Bon, s'il n'y a plus de variation de niveau d'eau, ben, il n'y a plus de brochet. S'il n'y a plus de variation de niveau d'eau, il n'y a plus de bancs de sable non plus. Puisque ces bancs de sable, ils sont bancs de sable parce qu'ils sont couverts pendant au moins 6 mois. Si tu regardes là le paysage qui est là, ce n'est que du sable. Hein, jusqu'au coteau là-bas de Saint-Avertin, ce n'est que du sable. Et pourtant, il y a des forêts, il y a de la végétation. On ne le voit pas, ce sable. Il est recouvert par la forêt, par des bâtiments. Bon, bref. Donc, pour que ça reste un banc de sable, il va falloir une immersion. Et en gros, il faut 180 jours d'immersion pour arriver à bout du peuplier. Enfin, ou 110 jours, je crois. Bon, bref. Et à la décrue, alors des bancs de sable apparaissent qui vont accueillir les sternes, les petits gravelots, les chevaliers, tout un tas d'oiseaux. Et pour certains, donc les sternes en l'occurrence, qui vont décider de pondre sur ces bancs de sable. Voilà, donc ces variations sont absolument essentielles pour créer des habitats. Et ça nous emmène vers cette dernière dimension, dimension temporelle, c'est qu'il y a des temps il y a des temps pour tout aussi. C'est-à-dire qu'en fait, une crue d'hiver, elle est hyper importante. Elle va permettre au saumon de remonter, elle va permettre aux brochets de se reproduire. Les brochets, hein, ils pondent au mois de février. Hein, ils n'ont pas décidé, évidemment, d'aller pondre au mois de septembre. Ils pondent au moment où il y a de l'eau, normalement. Et puis par contre, après, l'eau va descendre. Et au printemps, petit à petit, arrivé vers l'été, l'eau descend. Et là, les sternes vont arriver de Guinée et vont trouver des bancs de sable. Parce qu'il y aura eu une crue, s'il n'y a pas de crue, il n'y a plus de bancs de sable. Et par contre, parce qu'il y a une décrue, les bancs de sable apparaissent et donc vont accueillir les sternes. Donc c'est vraiment ces notions de temps.
Et j'en reviens à la dimension précédente, c'est que ce que tu racontes là, quand l'eau, parce qu'il y en a plus, sort ou élargit son lit et va inonder la prairie, ça ne peut arriver que si le cours d'eau n'est pas canalisé, bétonné par des digues, etc. Sinon, bah, elle reste derrière sa digue et elle ne va pas dans la prairie. Ah bah, et donc le brochet, il ne peut pas aller se promener dans l'herbe pour mettre ses œufs.
Ah mais c'est pour ça que tout est lié. Je veux dire, les plaines inondables, c'est absolument essentiel, mais à plein de niveaux. Il y a eu des études, pour revenir sur cette notion-là, il y a eu des études de fait sur le Danube. Ils ont comparé des crues de 15 jours et des crues de 2 mois. Quand il y a une crue de 2 mois, il quintuple la production de poissons. Absolument énorme. Tu sais, sur la Loire, ça a été des gros débats, hein, l'installation de ces digues-là. Et certains, les gens du coin, n'en voulaient pas. Il y a eu des écrits là-dessus. Hein. Ça a été pas mal imposé, en fait, par Louis XIV, Colbert. Les levées, elles sont très anciennes. Hein. Mais on va dire de systématiser la levée, de l'avoir comme ça, de manière complètement continue, et d'empêcher la rivière de rejoindre le Val, ça, c'est pas si vieux que ça. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des murs de protection, mais la rivière, elle allait quand même dans le Val. Tu vois. Là, ils ont dit, non, l'eau, elle ira plus du tout dans le Val. Ils ont construit ces levées, ils ont même donné des moyens. Alors, les gens qui ont du coup eu accès à ces territoires, on les appelait les colons. Tu vois, c'était vraiment des nouvelles terres colonisées sur la rivière. Sauf que les paysans ne voyaient pas forcément d'un bon œil le fait que la rivière n'arrive plus. Et encore aujourd'hui, tu sais, il y a des gens qui vivent sur l'île de Bushman ou en Basse-Loire. C'est assez marrant, j'avais vu une émission il n'y a pas très longtemps là, et ils te disent, bah c'est vrai que, bon, on est sur une île, on sait que l'eau, de temps en temps, il y a de l'eau tout autour de la maison. C'est pas très pratique, faut bien reconnaître. Mais quand ça n'arrive pas, ça nous manque. Parce que emmener les gamins à l'école en bateau, alors oui, on patauge, on est en botte, derrière, il y a de la gadoue partout, c'est pas que pratique. Mais quand elle vient pas, ça nous manque.
Il suffit de s'adapter aussi. Enfin, on évoquait ça avec Gilles Deguay dans l'émission sur les inondations. Tu construis ton habitat en fonction du crue éventuel. Donc tu surélèves un peu ta maison, tu te fais une pièce garde-manger, tu installes un truc pour rentrer les meubles, des chemins creux pour pouvoir naviguer en barque. Et oui, à Tours, on a nos fameuses trois petites marches là,
exactement,
avant d'accéder au domicile.
Voilà, donc tout le monde s'était adapté, si tu veux, à cette vie-là. Et alors, ça présentait quand même deux gros avantages. C'est que quand l'eau déborde comme ça, c'est pas une eau torrentielle, hein. C'est du coup, t'imagines, l'espace du Val, t'as 20 cm d'eau, qui est une eau un peu limoneuse, chargée, tu vois, et qui est calme, et qui va déposer ses limons, donc qui va enrichir les terres. Et donc, je veux dire, pendant 3 mois, tu galères un peu, parce que tu patauges l'hiver, ou pendant un mois même, hein, seulement, et par contre, au printemps d'après, sur l'été d'après, t'as des récoltes records, et dans la rivière, t'as des pêches miraculeuses.
À l'époque de Colbert, Louis XIV, etc., il y avait déjà des gens qui avaient compris que si le fleuve ne vient pas apporter des limons dans la prairie et des œufs de brochet, des trucs comme ça, on va y perdre, enfin on casse. Les gens avaient déjà pigé ce truc-là.
Ouais, disons qu'ils avaient une certaine observation. Et l'observation te permet de comprendre que, c'est quand même des années où derrière ça marche bien. Ça fait partie des arguments et des gens, des choses qui sont opposées.
Et que, a fortiori, quand l'eau va pas séjourner dans la prairie, ça marche potentiellement moins bien après.
Oui, bien sûr, c'est des savoirs assez trop. Bon, tout ça pour dire qu'effectivement, quand les vaches sont chassées des prés, c'est les poissons qui pâturent. Et c'est des espaces hyper intéressants. Tout ça pour dire que, voilà, faut que ça bouge, il faut qu'il y ait de la variété. Et une rivière vivante, c'est une rivière en mouvement. C'est une rivière qui n'est pas corsetée, qui n'est pas emprisonnée. Donc ça nous explique vraiment ce truc de la nature. Laissons cette nature s'exprimer, elle est tellement à notre service. Et ça va un petit peu à l'encontre. Bien sûr, on aménage, ok, on va chercher du confort, mais attention, quoi. C'est marrant, moi, c'est une fois, j'avais surpris mon père en discussion, tu vois, avec un pote à lui. Et alors, il parlait de leurs gamins, tu vois, respectifs. Et alors, et j'entends comme ça cette phrase de mon père qui dit « Bah oui, je me suis appliqué à leur faire comprendre la différence et à ce qu'ils ne confondent pas le confort et le bonheur. » Elle m'a vachement plu, cette phrase, tu vois. Il me l'a jamais dit comme ça. Là, je le chope comme ça dans une discussion. Mais je crois qu'effectivement, là, il y a vraiment une nuance qui est hyper importante, en fait, tu vois, entre le confort et le bonheur. Et évidemment, quand tu fais du bateau, tu vois, avec ton chi, bon, voilà, moi, j'ai quand même beaucoup navigué. On peut pas dire que ce soit le confort, mais putain, qu'est-ce que c'est le bonheur, tu vois. Et là, on est près de notre gamelle, on caille un peu quand même. Mais putain, on est bien là, tu vois, on est bien dehors. Moi, ce qui fait mon bonheur, en tout cas, c'est d'être sur un milieu qui soit sauvage, avec cette connexion au monde, avec ces saumons qui arrivent du Groenland, avec ces anguilles qui arrivent de Jamaïque, avec les sternes qui arrivent de Guinée, avec les cormorans qui arrivent de Norvège. C'est un voyage incroyable, tu vois. Et c'est juste là devant nous. Voilà, vivre au quotidien avec ce monde en mouvement, c'est ce qui me donne de l'énergie et c'est ce qui me donne envie de me battre pour défendre ce milieu-là, ouais.
Ça ferait une magnifique conclusion, mais... On n'a pas encore abordé complètement la notion du temporel. Si, on en a parlé finalement.
Ah oui, alors je te l'ai... Si.
Parce que je t'ai fait revenir sur le vertical. Ouais.
Mais si, bah, sur le temporel, si tu veux, c'est assez vite vu. C'est juste, il y a un temps pour chaque chose. En fait, une crue qui arrive au mois de juin, comme ça a été le cas l'été dernier, eh ben, ça embarque tous les œufs de sterne. C'est-à-dire, là, ça fait quand même 5 ans qu'on a une Loire qui est complètement à contre-saison. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'eau au mois d'avril. Alors que c'est le moment où normalement les migrateurs vont circuler, hein, février, mars, avril. Là, au mois d'avril, on avait des niveaux records, on était à 60 mètres cubes seconde. C'est l'étiage maintenu pour les centrales, normalement 60 mètres cubes. Donc on était complètement à sec au mois d'avril, donc les migrateurs n'ont pas pu remonter, les mulets, là, il n'y a rien du tout. Et puis par contre, on se retrouve avec une crue au mois de juin. Là, c'est complètement problématique, c'est à l'envers. C'est-à-dire que bah, les poissons, l'hiver, ne vont pas pouvoir se reproduire. Donc pour le brochet, ils ne vont pas se reproduire. Les migrateurs ne peuvent pas circuler. Et puis au printemps, les sternes arrivent. Oh bah super, il y a des îles partout, ils s'installent et là, l'eau monte. Oh, bon, bah, là, c'est ça la temporalité. Mais ce n'est pas seulement ça, hein. Ça va être le jour-nuit, tout ce qui rythme en fait nos quotidiens. Mais je veux dire, nous aussi, en fait, on vit cette temporalité-là, tu vois. La Terre tourne autour du Soleil, on a des saisons, elle tourne sur elle-même, on se lève le matin, on prend notre café, voilà. Et on est complètement rythmé par toutes ces choses-là. Hein. C'est en nous, c'est tellement intégré qu'on l'oublie. C'est juste ça qui est un peu con. Mais effectivement, il y a des rythmes, il y a des choses comme ça. Alors c'est pour ça que nous, on essaie de se retrouver de temps en temps, tu vois, sur les pleines lunes, pour essayer de se raccrocher aux astres, pour se raccrocher... à ces grands mouvements quoi, sur la planète, tu vois. C'est
parce qu'à la Rabouilleuse, quel que soit le mois de l'année, etc., à chaque pleine lune, il y a un événement, il y a une fête, il y a une bouffe. La dernière fois, c'était couscous poisson, je crois.
C'est ça.
Voilà, donc sachez-le, hein, si vous habitez en Touraine et pas loin, il y a teuf à la Rabouilleuse à chaque pleine lune, même quand il fait super froid.
Ouais, ben ouais, on essaye d'avoir ce petit rendez-vous, tu vois, une fois par mois. C'est en fait, c'est s'imposer un petit temps de respiration. Bon, évidemment, on s'en rajoute sur le dos, mais en même temps, c'est un moment où on dit « Allez, hop, on stoppe nos activités, on va dire, quotidiennes, et on prend le temps de se retrouver, on prend le temps d'essayer d'aller dormir dehors. On a fait des bivouacs au mois de février l'an dernier, au mois de mars, enfin, on en fait quasiment toute l'année. Et on s'adapte, hein, on n'est pas dans le Grand Nord, tu vois, Vincent Munier, il va dormir à moins 40 dans sa tente quechua, là, bon, nous, ça va, tu vois, on est sur la Loire, et on s'équipe, et on va partager le quotidien. Du rouge-gorge, qui caille lui la nuit, mais comment il fait, où est-ce qu'il va s'installer, et on va en fait trouver, c'est l'idée de se rapprocher en fait vraiment de ce milieu-là, et donc ouais, on essaie de trouver un petit temps de célébration comme ça, et puis de partage quoi, de partage à la fois culturel, à la fois scientifique, à la fois voilà, symbolique, et donc ouais, bah, la pleine lune, c'est pas mal, ça nous fait de la lumière aussi, donc voilà. En tout cas, il y a des rythmes, il y a des temps. Et la rivière, ah ben, elle a ses temps. Et bon, bah là, allez, l'histoire d'en remettre une petite couche sur les barrages. Mais c'est vrai que aménager pour notre confort un dérèglement de ces temps, c'est problématique. Aménager pour notre confort un dérèglement de ces dimensions verticales. Parce qu'en fait, toi, le barrage, il va avoir vraiment des conséquences à tous les niveaux. Hein. C'est-à-dire que Du coup, l'eau n'arrive pas au même moment. Tu régules les niveaux, donc tu empêches les grosses crues, tu empêches rien là. Comme tout d'un coup, les rives, comme les niveaux sont régulés, ça déborde plus, alors tu peux construire plus près. Donc tu te mets à grignoter vers la rivière. Et en plus, la dimension longitudinale est tronquée de manière très claire. Donc c'est vraiment une plaie quand même. C'est vraiment un non-sens, quoi. C'est vraiment un non-sens. On parle de l'anthropocène, voilà, et de
du capitalocène.
Du capitalocène, effectivement. De cette capacité que l'homme a à bouleverser, à s'inscrire dans un rythme géologique. C'est-à-dire que, effectivement, il y a un temps géologique. Et on bouleverse des rythmes géologiques. L'eau, c'est un caillou. Je l'ai dit dès le départ, hein, la dernière émission. L'eau, c'est un caillou qui peut être solide, liquide, gazeux, qui circule. Et là, quand tu interviens dans le cycle de l'eau, on l'a fait depuis longtemps, hein. Mais là, on le fait avec des mesures qui ne sont pas raisonnables, je crois. Bon.
Je regarde sans nostalgie ce qui est redevenu une île, mais où j'ai fait des séances de cul dans l'eau pour me le rafraîchir en juillet août 2022. Aujourd'hui, c'est pas maillot de bain Marcel, c'est écharpe et bonnet. Mais finalement, je trouve ça plus rassurant de revoir le fleuve revenu comme ça et ce truc qui était accessible là à pied est redevenu, oui, symboliquement une île.
Voilà, ça fait des zones un peu de réserve, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, voilà, les animaux sont un peu plus tranquilles là. Et c'est vrai que l'hiver, on a tendance à pouvoir observer notamment du castor, par exemple. On arrive à le voir en plein jour. Il y a tout un tas d'animaux qui sont un peu plus présents parce que il y a beaucoup moins de fréquentation humaine et donc on arrive à les apercevoir. Voilà, ils sont un peu plus présents. Bon, pour certains, hein, puis il y en a d'autres qui sont carrément barrés en Afrique, alors on risque pas de les voir.
Les castors ?
Ah non, des oiseaux pour le coup. T'as raison, ouais. Non, les castors, ils restent là. Ils vont, voilà. Quand les niveaux d'eau montent beaucoup aussi, ils peuvent avoir leurs terriers qui sont inondés. Donc là, ça peut être un petit moment de panique, ce qui fait qu'on les voit pas mal aussi. Parce que du coup, ils sont un peu délogés, tu vois, et ils recherchent d'autres endroits. Là, c'est pas le cas, hein, parce que en revanche, il fait froid, mais tu vois que l'eau est quand même très basse. Excuse-moi, je vais encore casser ton trip, mais la semaine dernière, j'entendais qu'on rentre dans le mois de décembre toujours en état d'alerte par rapport à la sécheresse. C'est-à-dire qu'il n'a pas plu quand même, hein, cet automne. Et donc, pour l'instant, on est, malgré le froid, mais voilà, on est encore dans une sécheresse qui est assez terrible, quoi, sur notre territoire. Et ça se voit là, pour le coup, sur le fleuve, hein. On est quand même clairement sur des niveaux très très bas, on voit encore les bancs de sable. Ouais.
J'ai cru t'entendre expliquer un jour qu'il y avait trois niveaux, trois paliers d'alerte en ce qui concerne les nappes phréatiques, ces réserves d'eau souterraines là, et qu'on était au niveau 3.
Ouais, alors c'est Dominique Boutin qui nous avait expliqué ça. Dominique Boutin, c'est un prof à l'école du paysage. Enfin, en gros, il a fait de la pédagogie, de la géologie. Il fait des liens entre tout ce qui est vivant sur un territoire et le sous-sol, quoi. Mais il est aussi assez pointu sur tous les aquifères. Et donc, il nous expliquait qu'il y a différents types de sécheresses. Il y a les sécheresses agricoles et il y a des sécheresses plutôt des aquifères, des nappes, quoi. Tu peux avoir des étés où il n'y a plus d'eau dans les nappes, mais il pleut un peu, ce qui fait qu'on n'est pas en sécheresse agricole, mais on est quand même déjà en sécheresse par rapport aux nappes. Mais voilà, il y a différents niveaux de sécheresse.
Motif donc cette série d'émissions, comme tu sais, la porte d'entrée vers toute cette histoire d'eau qui est encore plus compliquée que ce que je pouvais bien imaginer, c'est les méga bassines. Quand tu me parles sécheresse, je pense donc à cette agro-industrie qui puise avec des pompes puissantes des nappes phréatiques déjà déficitaires pour irriguer des cultures critiquables. Si je dois retenir des idées fortes de la dernière conversation qu'on a eue, sécheresse, pénurie d'eau douce, etc. On met ça, et on a raison parce que ça commence tout juste, sur le dos du réchauffement climatique. Mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que cette pénurie d'eau douce, cette raréfaction qui va s'accentuer, n'est pas tant due, enfin pour le moment, aujourd'hui au réchauffement climatique, mais à des décennies, 40 ou 50 ans, de pratiques agricoles et de mauvais traitements des sols. Ouais. Et que donc ce qu'on subit là, alors oui, ça, il fait plus chaud, il y a plus d'eau qui s'évapore, on en a chié cet été, et ça annonce probablement les étés à venir. Mais que là, ce qu'on a essentiellement subi jusqu'à présent, c'est le mauvais traitement de notre biotope, de ce cycle de l'eau que t'expliquais, par la canalisation des cours d'eau, par l'accélération du cycle, par le bétonnage des sols, par le drainage, par la disparition des zones humides, etc. C'est ça, en fait, qu'on subit.
Clairement, si tu veux, effectivement, il y a ces ensembles de pratiques que tu viens de citer, l'étanchéification des sols, le drainage, le recalibrage des fossés. Donc tout c'est...
Et auquel commence à se conjuguer le putain de réchauffement climatique. Super effet cocktail.
Depuis effectivement 40 ans, on a des pratiques qui ont tendance à renvoyer l'eau le plus vite possible vers l'océan. Hein, donc on a accéléré le temps de résidence de l'eau. Le temps de résidence, c'est ce temps entre le moment où la goutte tombe sur le territoire et le moment où elle rejoint l'océan. Et ce temps de résidence, il a été accéléré complètement. Donc voilà, avec tous ces systèmes de drains, de recalibrage, en gros, le fossé, il faisait des petits méandres. Enfin, c'était pas un fossé avant, d'ailleurs, c'était une petite rivière. Et puis, on le transforme en fossé bien profond et l'eau peut couler très vite. Et donc, on a fait en sorte de sécher notre territoire comme ça, en se disant, tant pis, on tapera dans la nappe pour le mettre juste dans les bons taux d'humidité. Bon, cette pratique-là a séché nos territoires. Voilà, mais c'était le projet, si tu veux. C'est juste qu'on n'a pas réfléchi à comment on rechargeait nos nappes. Et puis, comme il y avait de l'eau en abondance sur le territoire, ça tenait à peu près. J'ai le souvenir, tu vois, pendant mes études, on avait fait une sorte d'enquête de terrain. C'était à Cours-sur-Loire, juste en amont de Blois. C'était un BTS, gestion protection de la nature. Et donc, on était censé faire donc une sorte de enquête de terrain, tu vois. Et puis, on se balade dans le village de Cours-sur-Loire. Et là, on rencontre un papy qui en discute un peu, qui m'explique qu'il est du plateau, juste au-dessus, donc sur Cours. Hein, mais donc, c'est la Beauce. Hein, c'est vraiment la Beauce qui vient arriver là, un peu dans la Loire. Et donc, il me dit, tu vois, moi, quand j'étais gamin, on avait un puits et on avait l'eau à 5 mètres. Et puis, j'ai repris la ferme. Quand je me suis installé, vraiment, que j'ai pris le relais, il devait avoir, je sais pas, 25 vallées, tu vois, j'ai recreusé à 20 mètres. Et puis, un peu plus tard, j'ai recreusé à 35 mètres. Et puis, il dit, maintenant, on est arrivé à 75 mètres. Donc là, j'ai mon puits à sec. Et donc, si tu veux, là, il te raconte ça. Tu vois, moi, c'était en 2004. On n'était pas encore dans le réchauffement climatique. On était clairement juste dans l'assèchement des nappes par des pratiques. Il faut avoir conscience qu'on a une consommation de cette ressource quand même.
Je le martèle, cette idée forte là. Oui, bien sûr, réchauffement climatique, on sait bien que les glaciers font des compagnies, etc. Mais tu vois, une fois de plus, dans le discours médiatique et ambiant, si tu veux, on met ça sur le dos de la vilaine nature. Ah, ça se réchauffe. Bon, évidemment, c'est un peu de notre faute. Mais par contre, on ne nous parle pas de 50 années de destruction de paysages, de remembrement, d'assèchement des sols. C'est pour ça que j'insiste sur cette idée, parce qu'on ne nous le dit pas.
Très souvent, on a l'impression, et c'est d'ailleurs normal, puisque ça a été quand même le travail de l'humanité depuis le début d'essayer d'aménager son milieu de vie pour le rendre plus confortable. Il y a eu quand même cet enjeu-là depuis toujours. Je veux dire, on travaille à créer du confort. Et donc, on a la sensation qu'on va pouvoir peut-être, grâce à des aménagements, grâce à et de la science et tout ça, on va réussir à aménager et à s'adapter aux évolutions climatiques grâce à des aménagements, des barrages, des bassines. Il faut s'adapter. Voilà. Et c'est là qu'il y a quelque chose d'assez dangereux, je pense, parce que effectivement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'adapter et je ne dis pas qu'on n'a pas le droit d'aménager notre territoire.
Ça a été fait intelligemment pendant des millénaires et ces dernières 50 années, ce dernier demi-siècle-là, c'est juste une catastrophe.
Ouais, et puis alors intelligemment ou pas, c'est-à-dire qu'en fait, on a fait des conneries, je pense, depuis le début. Le problème, c'est que quand on fait des conneries avec des pelles et des pioches, ça va. Quand on commence à faire des conneries avec des bulldozers, c'est plus la même. Et c'est là qu'il y a eu une sorte d'accentuation complètement dramatique avec les moyens qu'on a aujourd'hui.
Ce que t'expliquais aussi, parce que revenons-en aux méga bassines, ton gars là qui va chercher son eau dans son puits avec un seau et une manivelle, ça va. Par contre, de l'agro-industrie qui, avec des pompes puissantes, siphonne des nappes phréatiques déjà déficitaires. D'ailleurs, c'est là-dessus que je voudrais te ramener là, début décembre 2022. deux là, tu regardais la Loire tout à l'heure, tu dis ouais, pas terrible, il a pas plu machin. Et en fait, elles en sont où, nos nappes phréatiques, nos réserves d'eau?
Là, je pourrais pas te dire exactement, mais je te dis, j'ai entendu cette émission là où il disait qu'on était quand même sur des niveaux de sécheresse. Tout simplement, il a pas plu sur le territoire. Donc, je veux dire, elles ont pas pu se regonfler, hein, ça c'est certain. Et c'est vraiment cet hiver qu'il va falloir qu'il pleuve, parce que on parle de pluie efficace. C'est pareil, c'est bien triste, hein, cette fonctionnalité toujours, mais bon, tant pis, hein, on essaie d'être clair. Les pluies efficaces, en tout cas pour la recharge des nappes, c'est les pluies d'hiver. Parce que les arbres n'ont pas de feuilles, la végétation n'est pas en développement, et donc l'eau qui va tomber va pas être immédiatement captée par les plantes, ça va descendre et rejoindre les nappes. Alors que des pluies de printemps vont par exemple être tout de suite assimilées et renvoyées, voilà, ce qui est très bien pour les plantes, hein, si tu veux, mais ça va pas recharger de la même manière les nappes. Donc ouais, bah ouais, on a hâte un peu de voir la pluie arriver aussi, tu vois, et la neige, pourquoi pas, mais en tout cas il va falloir de l'eau, quoi.
Ce sera à sauter pour mieux reculer de toute façon, parce que globalement le modèle qui est en place, le modèle monstrueux de siphonner une ressource déjà déficitaire, hein. D'ailleurs, je me pose la question, je me dis, dans les tenants et les pratiquants de cette agro-industrie qui pompe de l'eau pour irriguer du maïs destiné à nourrir des bestiaux, il doit y avoir des gens quand même qui ont des cerveaux là-dedans et qui se rendent compte, même d'un point de vue capitalistique, que leur modèle, il n'est pas viable à long terme, parce qu'une fois qu'ils auront fini de piller la ressource jusqu'à la dernière goutte, leur modèle agricole et donc leurs revenus vont s'écrouler. Chez ces gens qui ont des pratiques qui nous semblent aberrantes, il doit quand même y en avoir qui réfléchissent et qui se rendent compte que ce qu'ils font n'est pas viable à long terme, même pour leur modèle économique.
Oui, oui, non, mais c'est certain que les choses ne sont pas aussi manichéennes et voilà, avec des bons et des méchants. C'est évident qu'il y a des gens intelligents et des gens qui réfléchissent partout. Par contre, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a des modèles. Des fois, quand t'es pris dans un système, tu vois, c'est dur d'en sortir. Y a toute une construction. C'est dur de se remettre complètement en cause, tu vois, de remettre toute une vie en cause. C'est des choses qui peuvent être hyper violentes, en fait.
Non, mais tu parlais d'un système, en plus, on parle aussi de multinationales, de Monsanto, de banques, d'un rouleau compresseur face auquel l'individu, l'exploitant agricole, l'ancien paysan devenu exploitant agricole, on sait bien que les gens sont pris à la gorge, en fait, et endettés pour des vies entières.
Ouais, et puis il y a des histoires, je crois, humaines derrière aussi, qui sont compliquées. Tu parlais de Pezzani la dernière fois.
Pezzani, ministre de l'agriculture de Gaulle, qui s'excusait à la télévision quasiment en pleurant d'avoir massacré le territoire avec ce fameux remembrement.
Mais ça n'a pas été seulement le remembrement, ça a été la mise en place de la politique agricole, si tu veux, au sortir de la guerre. Ça a été des moyens absolument considérables. Enfin, ils se sont donné des moyens incroyables, notamment la mise en place de tous les lycées agricoles. Je connais bien ce milieu parce que moi j'ai fait tout mon cursus en lycée agricole. Les lycées agricoles sont apparus parce que il y avait besoin de former ces jeunes à l'usage des pesticides, du drainage, des nouvelles pratiques, si tu veux, qu'allait voilà, sauver le monde et nourrir le monde. Au lieu de laisser le monde se nourrir, on avait cette prétention de nourrir le monde. Ça a été un travail considérable et ça a été des drames dans les familles, quoi. Imagine, tu vois, les grands-pères qui, de génération en génération, depuis des milliers d'années, surfilent la terre, surfilent toutes les pratiques, toutes les techniques, se refilent les semences. Et puis tout d'un coup, le fiston, il fait du nimpe. Sauf que c'est ton fils. Et puis, il revient de l'école. Et puis, lui, il sait lire. Et puis, il arrive. Et puis, il arrive avec ses machines. Il défonce ta terre. Il arrache tout ton travail. Mais il produit, quoi. Et puis, il produit plus que toi. Et puis, il te fait des putains de cadeaux à Noël, tu vois. Et puis, il te paye ta retraite. Et donc, je pense que ça a été des drames dans les campagnes qui sont assez incroyables. Mais la complexité des milieux, et je pense que les savoirs paysans d'antan étaient d'une finesse absolue, quoi. Moi, j'ai vraiment un profond respect pour ce monde agricole. J'y ai quand même longtemps travaillé.
Ma mère me raconte souvent, là, elle a des souvenirs. Quand elle était gamine, dans les années 60, elle avait 16 ans. Toi, les années yéyé, machin, bah, s'intéresser à des trucs d'ado des années 60, les conneries, Sylvie Vartan, je sais pas quoi. Sa grand-mère, donc mon arrière-grand-mère, était une paysanne, une maraîchère bretonne, qui n'avait pas été sûrement beaucoup à l'école, mais qui savait la veille, en regardant les étoiles, le ciel, etc., savoir quel temps il allait faire demain, d'où viendrait le vent, etc., etc. Tout un savoir, en fait. Et aujourd'hui, ma mère, qui a passé 70 piges, me dit, mais comme je regrette de ne pas avoir eu la maturité nécessaire pour écouter... En fait, ma grand-mère était un puits de science. Elle connaissait intimement la nature... Et j'ai pas été foutu d'écouter ce qu'elle disait. Et ce savoir, il a un peu disparu. Et aujourd'hui, elle s'en mord un peu les doigts, ma maman. De pas avoir écouté sa mémé, la paysanne.
Mais oui, non, mais c'est sûr qu'on va forcément un peu s'en mordre les doigts à un moment donné quand on essaiera d'avoir un peu d'autonomie alimentaire sur le territoire. C'est évident qu'il y a énormément de savoirs qui s'éteignent comme ça. Après, voilà, bon, il y a tout un tas de structures qui essayent de maintenir, de développer ce savoir-là. Mais ce qui est certain, c'est que il y a eu un travail, en tout cas, de formation ou de déformation, mais en tout cas de transition. Et aujourd'hui, voilà, il va falloir mettre les moyens pour réenvisager d'autres manières d'habiter notre territoire. Et ça va passer aussi par des écoles. Donc, de la même manière qu'on l'a fait au sortir de la guerre, là, je ne vais pas paraphraser notre cher président, mais on est en guerre, c'est évident. Là, on est dans une économie de guerre, il y a tout à reprendre. Il faut réisoler tous les bâtiments, il faut réenvisager notre mode agricole, il faut... Donc, il y a tout à faire. Donc, ça peut être aussi un chantier tout à fait enthousiasmant. Mais il va falloir mettre en place des écoles pour réapprendre probablement ce que des anciens savaient. Le passer sous le prisme de nouveaux savoirs aussi, hein, parce qu'il ne s'agit pas de balancer toutes les recherches agronomiques qui ont été faites ces 40 dernières années voilà, en disant que c'est que de la merde tout ça. Il y a eu plein de progrès et de compréhension. Ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, il y a un travail à faire autour de l'usage de l'eau. Il va falloir être un peu parcimonieux avec ça et un peu raisonnable. Est-ce que tu veux qu'on se rapproche de la gamelle ? Je dis ça, on est bien, on est au soleil.
La gamelle.
La gamelle de feu.
Ah non, mais je suis bien là, on est bien. Bon, bah... Le paysage est beau, il y a un premier rayon de soleil qui vient. Ouais. J'en parlais la dernière fois, c'est qu'il y a aussi ce traumatisme collectif là, qui culmine pendant l'occupation, enfin, qui va durer un moment. Mais pourquoi, en fait, ce modèle agricole complètement aberrant, c'est que les gens ont crevé de faim pendant des années, de 40 à... Je regardais, il y a eu des tickets de rationnement en France jusqu'en 1950. Je pense que ce traumatisme du manque a aussi engendré ce productivisme fou, faut manger de la viande tous les jours.
C'est évident qu'il y a eu de ça, mais si tu veux, c'est pas pour faire encore plus cynique que toi, non, mais en réalité, il faut bien comprendre que quand il y a une guerre, en général, il y a des gens qui gagnent de l'argent. Hein.
Ça s'appelle un profiteur de guerre.
Voilà. Et donc, en l'occurrence, c'était ben, les chimistes qui ont pas mal vendu notamment des produits pour mettre dans les chambres à gaz. Et puis, l'industrie de l'armement.
Tu faisais référence à Bayer, hein, qui fabriquait le Zyklon B. Bayer qui désormais appartient à Monsanto.
Non, Monsanto qui a été racheté par Bayer.
Mais... Et Monsanto, c'était notamment ceux qui fabriquaient le fameux agent orange utilisé pendant la guerre du Vietnam.
Et donc, si tu veux, sorti de la guerre, bon, ben, faut se remettre au travail, tout est par terre. Comment on fait ? Ben, faut aller chercher des financeurs. Ben, qui c'est qui a de l'argent ? Ah, ben, tiens, ben, l'industrie de l'armement et l'industrie de la chimie, ils ont plein d'argent. Hein. Ils sortent de la guerre, ils sont gavés.
Point géopolitique, quand même, c'est que je parlais de force tout à l'heure, je parlais de banque. Qui est de multinationales et machin, souvent américaines. Les États-Unis arrivent aussi avec leur modèle économique, leur moissonneuse-batteuse de ouf, comme si on était dans le Middle West. D'ailleurs, dans le Middle West, ça fait des ravages aussi.
Ben oui, puis si tu veux, ils n'allaient plus vendre des chars. Puisque la guerre était... Donc, fallait bien renouveler et changer un petit peu de secteur. Et donc, ben, ils avaient des savoir-faire qui étaient autour du métal et tout ça. Ils se sont dit, ben, on va arrêter de faire des chars, on va faire des tracteurs. Et puis, on va arrêter de faire des produits pour les chambres, on va faire des produits pour les champs. Et si tu veux, ils avaient vachement de moyens et ils se sont proposés d'aider un petit peu... Il y a quand même cette histoire-là aussi qui est un peu sordide, mais qui est très très liée. Les nitrates qu'on met dans les champs, le blé, c'est aujourd'hui complètement adapté à ce nitrate-là. C'est un nitrate qui servait à faire des bombes. On devait en avoir dans les fermes parce que c'était des stocks. Voilà, on a une agronomie qui est quand même un petit peu manœuvrée par des gros industriels, plus bah, des traumatismes évidemment à la population. Ça nous a permis de faire des évolutions comme ça, des bascules très importantes. On dit souvent les situations de crise. De manière générale, ça, pour revenir à de l'écologie, une situation de crise, c'est aussi des moments d'évolution. Tac, il y a une crise, et bien hop, ça va changer, ça va évoluer. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu une guerre, une crise, et derrière, il y a eu des évolutions. Alors, il y a eu des évolutions aussi assez positives. Hein, il n'y a pas que du noir, mais au niveau agricole, c'est vrai que voilà, il y a aussi cette histoire-là, quoi.
J'ai appris un truc là il n'y a pas longtemps en regardant un documentaire, une série sur Arte, consacrée à cette grande sécheresse qu'il y a eu dans les années 30. Alors, donc les Américains savaient en fait hein, que leur modèle agricole était pourri. Parce que dans ces prairies des États-Unis où il y avait de l'herbe bouffée par les bisons, bon, massacrée par les Blancs, on s'est mis à arracher cette herbe en fait, qui faisait partie du biotope, qui maintenait de l'humidité, etc., pour faire du blé. Et alors ça a marché, grosse machine, moissonneuse batteuse, ça a marché. Et puis une année, ça marche pas du tout, sécheresse. Et là, une tempête de sable et de poussière qui va durer des années. Ils avaient bousillé le biotope. Alors oui, ils ont fait du blé pendant quelques années, ça a fonctionné jusqu'au moment de la grande catastrophe. Je reviens à ce que tu disais tout à l'heure. Oui, donc ce modèle agricole aberrant, ultra productiviste, polluant. Moi, je me demande régulièrement, je ne sais pas si c'est un rapport, mais pourquoi il y a autant de cancers autour de nous et de gens qui avaient l'air en bonne santé qui d'un seul coup calanchent. Je me dis que ça a quand même peut-être un rapport avec non seulement ce qu'on fume, mais ce qu'on boit, ce qu'on respire, ce qu'on mange. Je ferme cette petite parenthèse. Donc on s'est adapté, il y a eu crise, il y a eu cette adaptation, bon, désastreuse. Et là, aujourd'hui, on vit effectivement à nouveau une crise dramatique. Et tu disais, voilà, mettre en place des choses. Il y a des pistes, tout à l'heure, en décrivant ce qui ne va pas, c'est-à-dire canalisation des cours d'eau, bétonnage des sols, drainage des zones humides, etc. C'est aussi une manière de dire ce qui pourrait aller, en fait, est-ce qu'il ne faudrait pas reméandrer les rivières, ralentir le cycle de l'eau? Est-ce qu'il n'y a pas des croûtes de béton qu'on pourrait faire sauter, réinstaller du bocage, retrouver ou recréer des zones humides dans les prairies? Il y a plein de choses qui ne semblent pas en fait si compliquées que ça. Enfin si, j'imagine que reméandrer une rivière, ça ne doit pas être simple.
Ça se fait, si, ça se fait. Nous, on avait fait ça à Chédigny d'ailleurs, tu vois, avec la première assoce que j'avais montée là. Je suis natif de là-bas, donc on avait reméandré le ruisseau d'Orfeuille. C'est des choses qui se font. Voilà, il y a tous les techniciens de rivière qui travaillent notamment à ça, reméandrer, remettre en connexion aussi, donc ce qu'ils appellent avec des gros mots, d'écologues, mais la continuité des corridors écologiques, c'est-à-dire ça prend cette dimension longitudinale, là, essayer de faire sauter les barrages et donc remettre en lien comme ça les rivières à l'océan. Donc tout ce travail-là, il est fait. C'est vrai que c'est assez marrant, tu vois, de voir qu'aujourd'hui l'Agence de l'eau va financer d'un côté des bassines, mais de l'autre côté, va financer, tu vois, Didier, par exemple, qui fait partie de la SOS, la Didier Hurteau, il a un étang, et là, il travaille avec des techniciens de rivière à retransformer cet étang en marais. Et il est financé pour ça. C'est-à-dire que, en fait, bon, de partout, il y a des actions comme ça qui sont un peu rassurantes, effectivement, et la partie n'est pas perdue. Il faut au moins s'en convaincre, au moins pour continuer à être en mouvement. Il y a plein de petites victoires partout sur le territoire.
Et puis, on l'évoque beaucoup. Repenser ce modèle agricole aberrant, notamment ce principe de se servir d'une eau précieuse et rare pour irriguer des cultures pas adaptées à nos sols, à nos climats. Là, on a du pain sur la planche s'il faut repenser tout le modèle agricole. Mais nous-mêmes aussi, la manière dont on consomme, dont on mange. On disait la dernière fois qu'on a besoin de manger autant de viande. Parce que voilà, cette eau, elle sert aussi à ça, à faire de la viande.
Oui, bien sûr. Mais tu vois, je repense justement quand tu me disais tout à l'heure, voilà, les méchants, les nanas. Alors moi, j'ai grandi donc à Chédigny. J'ai pas mal bossé donc à cette époque-là dans des milieux plus agricoles. Je me rappelle de Monsieur Soyer, 360 hectares, modèle intensif. Il a bouffé tous ses voisins et il a un grand territoire sur lequel il est sur un modèle agricole intensif. Malgré tout, c'est un mec qui réfléchit, avec qui on a pu discuter tout ça et qui m'expliquait qu'il travaille vachement à augmenter le taux de carbone dans ses champs. Il est sur des modèles d'irrigation, mais il sait que irriguer sur un sol qui est complètement mort, ça ne sera pas efficace. Et donc, pour des soucis d'efficacité, il va chercher à avoir plus de matière organique dans son sol. Et il était hyper soucieux de ça. Alors, peut-être c'était le discours qu'il voulait nous tenir, mais je crois que c'était vraiment sa grosse problématique, tu vois. Donc, tu vois un gars qui a quand même bien compris les enjeux de la qualité d'un sol qui vont énormément jouer, en fait. Parce que quand on parle du cycle de l'eau, on parle des eaux bleues. Donc on parle des eaux douces, qui sont les eaux donc des rivières, des nappes, des aquifères de manière générale, des lacs. Et puis les eaux vertes. Et les eaux vertes, c'est les eaux qui sont présentes en fait dans le sol et qui sont captées par tous les micro-organismes du sol. À savoir que sur un hectare à peu près de terre, on considère qu'il y a 4 tonnes de bactéries et de champignons, qu'il y a 1 tonne de vers de terre. Et donc ça fait déjà pas loin de 5 tonnes de flotte. C'est des petites capsules d'eau qui sont emprisonnées par du vivant et qui font de l'eau. Et de la même manière qu'une éponge, quand elle est complètement sèche, tu vois bien, tu la passes sous le robinet, l'eau ruisselle dessus. Si elle est un peu humide, elle va boire. Et donc, c'est hyper important d'avoir des sols vivants parce que ça va faire des sols qui sont capables d'accepter l'eau qui tombe. Et donc, ils travaillent à ça, si tu veux, quand même. Donc, de partout, tu as des gens, quand même, qui sont capables de comprendre. C'est dans leur intérêt, évidemment.
Je disais, mais c'est pas parce que t'aimes la nature et que les dauphins sont gentils. C'est que tu te dis, merde, mon modèle économique, là, il va s'écrouler. Comment je vais faire pour faire entrer de la thune si j'ai pété un maillon de la chaîne, si j'ai plus de ressources?
Mais bien sûr, nous, ça a été un des gros arguments aussi, notamment, on pourra reparler un peu de la lutte par rapport aux OGM. Parce que ça fait du bien de voir qu'il y a des victoires, quand même. Je veux dire, Monsanto, mine de rien, il s'est fait racheter parce qu'il n'avait pas le choix, hein. Il était en train de couler quand même. Donc on a quand même réussi et c'était improbable. Il y a 20 ans, quand on se bagarrait contre les champs OGM, on n'imaginait pas qu'on allait gagner. Je veux dire, on a quand même gagné. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, la question, c'était est-ce que l'ensemble des maïs, du blé, du riz, de tout ce qui nourrit l'homme, va pouvoir être la propriété d'une boîte? Parce que c'était ça l'enjeu quand même. Et ça, ils n'ont pas pu, parce qu'il y a eu des soulèvements partout sur la planète.
Privatisation du vivant, quoi. Enfin, une voilà. De plus, d'ailleurs.
Ouais, mais ils n'ont pas pu le faire. Donc, tu vois, comme quoi, je veux dire, en fait, on gagne des victoires de partout. Et en l'occurrence, voilà, là, ils n'ont pas réussi à privatiser ce vivant. L'argument par rapport aux OGM, notamment, si tu veux, au tribunal et en France, c'était de dire, mais attendez, mais quel intérêt on a, nous, en France, de faire des OGM? La France doit essayer de s'installer au niveau mondial dans un commerce. Est-ce que véritablement, c'est avec des OGM que la France va venir concurrencer le tourteau, tu vois, ou le soja au Brésil, les États-Unis? Mais qu'est-ce que tu vois la taille du pays? Mais je veux dire, on va pas aller les concurrencer là-dessus. Nous, notre modèle agricole, il peut éventuellement, tu vois, pour reprendre leur terme, mais voilà, inonder le marché mondial avec du bon pinard. Avec des fromages, avec voilà, c'est ça la France, c'est quand même des produits de qualité, tout ça. Bon, c'était un peu l'argument, mais économique, pour dire, mais attendez, en fait, là, on est en train de se tirer une balle dans le pied. Si on fait de la France une zone sans OGM, alors on s'ouvre un marché incroyable.
Non, la preuve, c'est que quand les Américains sont pas contents avec nous, ils boycottent le Roquefort.
Et complètement. Mais la preuve aussi, c'est que au final, les produits français, tu vois, sur des étals américaines, je te raconte pas les prix. Donc à l'époque, c'était l'argument de dire, ok, on fait de la recherche, bah, faisons de la recherche. Moi, les bases de recherche que j'ai fait en cours, c'est il y a une éprouvette témoin, il y a une éprouvette expérience. Donc soyons l'éprouvette témoin. Tu vois, moi j'aurais dit, bah, voilà, au moins comme ça, on sait comment ça se passe si on fait rien. Bon bref, et ce qui est certain, c'est que là, pour reparler cette anecdote par rapport aux produits et à l'intérêt qu'on a à faire des produits de qualité.
Et bien de chez nous.
Non, mais des produits qui ont du caractère, en fait, parce que c'est génial d'avoir des produits aussi, tu vois, de l'Est, ou pas cette uniformisation là de produits dégueux partout sur la planète. Voilà, quand t'as la saveur d'un vrai ananas qui a été produit. Et donc, on a embarqué Monsieur Rollinger avec Thierry Bouvet, là, le pêcheur professionnel qui voulait lui faire découvrir son garum.
Olivier Rollinger, donc, chef cuisinier renommé, commerçant en épices et spécialiste de la gastronomie.
Et Rollinger nous explique à un moment que ce qui a sauvé les vins français, c'est les vins nattes. Pourtant, bon, dans les vins nattes, toi, il nous explique, hein, il dit, bon, alors des fois, il y en a, ils pensent que presser du raisin, foutre ça dans un tonneau, ça fait du vin. Non, faire du vin, c'est un peu plus compliqué. En revanche, il dit, moi, il y a 10 ans, je ne pouvais pas mettre un vin français sur une table. C'était has-been. Il y avait des trucs absolument incroyables qui se faisaient en Afrique du Sud. Il y avait des trucs incroyables en Australie. Ramener un Bordeaux français, ça n'avait aucun intérêt. Je pouvais pas me permettre de faire ça sur une table. Il dit, aujourd'hui, grâce au vin nat, il y a eu des expérimentations un peu partout sur le territoire. Il dit, aujourd'hui, il y a des superbes produits et c'est ce qui a sauvé les vins français. Bon, ça m'a plu parce que je me suis dit, bon, bah voilà, on s'y retrouve, quoi. Faisons des choses un peu sur le territoire qui ont du sens, quoi, un petit peu, et qui sont un peu le reflet de pratiques et de notre milieu et de notre nature. Et pas d'un produit chimique qu'on peut retrouver partout sur la planète, si tu veux, et qui vont avoir tendance à homogénéiser les trucs. Bon.
C'est hyper convaincant ce que tu dis. Je serais exploitant agricole, je serais assez séduit en fait. Et mon ego national un peu regonflé aussi en disant, mais ouais, quand même, c'est vrai qu'on fait des bons trucs.
Bah, c'est clair.
On va prendre un café.
Ouais, on va se reprendre un petit café, voilà. Bien de chez nous.
Ouais, c'est ça. Et voilà les amis, c'est sur cette nécessaire refonte de notre système agricole qu'on va quitter Clément Sirgue de l'École de Loire, la Rabouilleuse, qu'on remercie, et notamment pour son combatif optimisme. Clément le disait tout à l'heure, on va se dire que rien n'est encore perdu, hein.
même si la catastrophe en cours peut donner envie de se flinguer ou de sérieusement se révolter. Mais pour redresser la barre, pendant qu'il serait encore temps, va peut-être nous falloir passer par des phases de conflit avec des gens et des intérêts qui n'ont justement pas intérêt à ce que les choses changent. Les questions de la conflictualité et de la violence se posent quand, par exemple, des manifestations pacifiques anti-mégabassines se font copieusement gazer par les forces de l'ordre capitalistes, comme cela a été par exemple le cas à La Rochenard en mars 2022 ou à Sainte-Soline fin octobre. Quand la violence des crimes écologiques se heurte aux diverses réactions d'une population en danger, on en parle à nouveau avec Clément, qu'on retrouvera bientôt sur ta radio préférée au prochain épisode de cette série, Au Secours, à réécouter sur notre site polemixetlavoixoff.com. Ce n'est qu'un combat, continuons le début. Salut.
Terminé.
Les petits cons alternatifs doivent s'arrêter maintenant.
Radio G. www.radio-g.fr. Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs.